L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère avec toujours en cette 9e saison les invités ou l'invité du LEM en première partie. Et donc on pourra réécouter cette première partie demain à 8h30. Aujourd'hui, c'est un début, on se lance en compagnie d'un partenaire qu'on a déjà fréquenté plusieurs fois par le passé, l'association Les Petits Débrouillards Bretagne. Les Petits Débrouillards qui font de la vulgarisation des sciences, de la médiation des sciences, des techniques aussi. Et il sera question de ça dans ce cycle d'émissions qu'on lance donc aujourd'hui autour de l'adaptation au changement climatique. C'est un projet qu'on va découvrir dans cette première émission et puis un mardi par mois, on explorera une facette de cette adaptation concrètement avec des actrices et des acteurs, des chercheurs, des chercheuses, comment on adapte son logement, son alimentation, son quotidien, l'agriculture, tout pour faire face à ce changement. Quentin Gauthier est responsable secteur Finistère et Morbihan pour les Petits Débrouillards Grand Ouest. Il est avec nous aujourd'hui pour cette émission introductive. Bonjour Quentin.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Le changement climatique, on peut dire qu'on y est, même si il y a, paraît-il, des climato-sceptiques. Mais enfin bon, la science, en tout cas, elle a bien établi ce changement. Les Petits Débrouillards ont déjà fait de la radio, d'ailleurs, autour de cette réalité aux facettes multiples. Alors, qu'est-ce que la science dit du changement climatique et pour la Bretagne ?
Si on se fie à ce que dit le Haut Conseil Breton pour le Climat, donc le Haut Conseil Breton pour le Climat, c'est une instance scientifique indépendante.
Avec des chercheurs dedans, j'imagine.
Exactement, qui reprennent en partie les travaux du GIEC et qui donnent en fait une couleur locale, donc à la Bretagne, comme il s'agit de ce Conseil Breton, qui donne son avis sur la cohérence des stratégies de territoire menées par la région Bretagne.
Uniquement pour la région, enfin les politiques de la région, en fait.
Exactement. C'est un, donc dans chaque région, il peut y avoir ou pas un conseil scientifique dédié.
Il n'y a pas forcément. En fait.
Alors, je ne suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises, mais toutes les régions n'ont pas ou vont bientôt avoir. Mais en tout cas, le Conseil Breton pour le Climat est un des premiers conseils en France à avoir été monté.
Ah oui, il existe depuis combien de temps à peu près ?
Je n'ai pas les chiffres en tête, je ne sais pas. En tout cas, plusieurs années. Et en tout cas, donc, de ce que dit le Haut Conseil Breton pour le Climat, donc, qui rédige des comptes rendus sur cette question-là, on peut dire qu'en 2050, on va subir une intensification des aléas climatiques. Donc, il y aura une hausse générale des températures qui est estimée pour l'instant entre 1,2 et 1,6 degrés. On aura aussi des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, des sécheresses, donc avec un allongement de la période de sécheresse, qui veut dire une augmentation des possibilités de feux de forêt qui se déclarent.
Même pour la Bretagne, hein. Voilà, comme on a eu en 2022.
Hein, exactement, donc là je parle vraiment que spécifiquement un focus sur la Bretagne. Des inondations plus fréquentes, et puis une élévation du niveau de la mer, érosion du trait de côte, risque de submersion, dans un contexte dans lequel la Bretagne est quand même concernée par 2700 km de côte littorale.
C'est ça.
Donc ces changements, en fait, ils vont affecter la ressource en eau, la biodiversité, la santé, les infrastructures urbaines.
Les routes, par exemple, les routes côtières, tout bêtement.
Exactement, les bâtiments. Donc face à ces évolutions, le territoire régional présente des vulnérabilités locales et variables, avec des différences marquées entre le secteur littoral et ce qu'on pourrait appeler en fait la Bretagne intérieure. Donc on aura des territoires urbains qui sont soumis à des îlots de chaleur, potentiellement à des épisodes de pollution atmosphérique, et des risques d'inondations et sanitaires.
Inondations pour celles qui habitent, les villes installées en bord de rivière, mais c'est pratiquement le cas.
Voilà, c'est ça, dû à l'artificialisation des sols. On aura des territoires littoraux, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, des menaces d'érosion et de submersion, mais on aura aussi des dégradations des infrastructures, potentiellement aussi une modification des habitats naturels, l'acidification des océans avec une pression accrue sur les activités de pêche et les activités aquacoles. Et enfin, les territoires intérieurs, eux, subiront plus une intensification des périodes de sécheresse, Donc avec les risques de conflits d'usage de l'eau, les incendies qu'on a vécu
dans les monts d'arrêt,
et un bouleversement des écosystèmes avec la migration des espèces. Donc une pression accrue sur les activités agricoles et forestières.
Il se fait déjà un peu sentir en fait.
C'est ça.
Quand on... Ouais.
Et avec l'idée, en fait, c'est la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut réussir à maintenir en fait une qualité de vie en Bretagne, une meilleure santé pour les populations, la préservation des ressources, l'attractivité du territoire, etc. quoi, pour offrir en fait aux générations futures un avenir plus décent et serein quoi.
Oui, parce qu'en plus, ces prévisions-là, elles concernent, on va dire, la géographie pure, entre guillemets, mais pas, elles ne tiennent pas forcément compte. Enfin, est-ce qu'elles tiennent compte, par exemple, de, je sais pas, la démographie bretonne, le fait qu'il y aura peut-être plus de gens qui vont s'installer chez nous ou une population vieillissante Ça, c'est une question d'impact, plutôt.
Exactement. Ouais. Ce qui est pris en compte aussi, oui, c'est les impacts, notamment par rapport au tourisme, aux migrations, on va dire écologiques, avec des gens qui peuvent vouloir revenir dans des zones moins chaud, donc en Bretagne par rapport au sud de la France, donc voilà tout ça qui est un peu pris en compte. En tout cas, il y a énormément de défis et nous, l'idée derrière, c'est d'améliorer la connaissance et la diffusion des impacts du changement climatique.
Que fait de toute façon déjà les petits débrouillards, vous faites déjà ça sur la science en général. Hein, voilà, vous faites, vous menez des ateliers très concrets. Enfin, faut peut-être nous rappeler où est-ce que vous faites concrètement, un peu partout, pour les gens qui connaîtraient pas les petits débrouillards.
Alors, les petits débrouillards sont un mouvement national qui a été d'abord fondé au Québec et qui s'est internationalisé. Et en France, il est divisé en fait en régions avec un S. Et nous, les petits débrouillards Grand Ouest, on représente donc la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. On a 14 antennes, dont 7 qui sont en Bretagne, avec le siège social qui est à Rennes. Et nous menons en fait des actions d'animation, de formation, de sensibilisation, des conceptions d'outils pédagogiques, etc. Donc tout le panel de la culture scientifique, technique et industrielle, et avec l'autre pilier qui est l'éducation populaire.
Donc des ateliers, ce qu'on appelle les ateliers.
Voilà, c'est ça. Ils peuvent prendre des formes vraiment diverses qui peuvent être... des ateliers en cours, dans des classes, mais ça peut être aussi des événementiels grand public, ça peut être de la formation pour de l'insertion professionnelle pour les publics éloignés de l'emploi. On peut aussi avoir des partenariats, comme par exemple avec l'Agence de l'eau, où on va concevoir une exposition interactive. Donc voilà, on essaie d'être un peu diversifié sur toutes les questions de la science en règle générale, qui va des sciences humaines aux sciences dites dures.
Dures, ouais, c'est ça, sciences humaines aussi, hein, c'est important. Et vous sauriez dire, vous, Quentin Gauthier, depuis quand est-ce que les petits débrouillards ont intégré ces questions climatiques dans les animations et les formations?
Alors, je ne pourrais pas dire exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, dans le projet associatif, qui est donc porté au niveau national, hein, qui n'est pas que aux petits débrouillards Grand Ouest, nous sommes structurés en trois axes, et l'un de ces axes est la transition écologique et sociale. Et dans cette transition écologique et sociale, il y a un ensemble de thématiques, dont l'adaptation au changement climatique. Donc ce projet associatif, il a été fait au début, je crois, en 2014. Donc peut-être qu'on pourrait dire à partir de cette période-là, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, on a accumulé un ensemble d'outils, de contenu pédagogique qui s'est étoffé au fil des années, avec en fait en point d'orgue les deux dernières années où nous avons accueilli en fait des volontaires en service civique, une trentaine en Finistère et Morbihan, pour qu'ils deviennent, après un accueil, un accompagnement, une formation, des ambassadeurs ou ambassadrices de l'adaptation au changement climatique, et justement qu'ils puissent venir sensibiliser un ensemble de publics sur tout le territoire.
Voilà, donc il y a le changement climatique, il y a les impacts, et il y a nous, les humains, en face de ça, l'adaptation. C'est là vraiment le sujet qui va nous concerner dans ce cycle d'émissions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet qu'il y a autour de ces émissions ?
Ok, alors pas de souci. Donc déjà peut-être qu'on peut rappeler en fait l'adaptation, ce que c'est, parce que ça paraît pas forcément aussi évident que, ou ce que ça veut dire derrière. En fait, on peut distinguer deux types d'actions pour limiter l'impact du changement climatique. Il y a d'abord l'atténuation. Alors l'atténuation au changement climatique, cela veut dire tout simplement diminuer les effets en réduisant fortement et rapidement en fait nos émissions de gaz à effet de serre.
Donc c'est ça, empêcher l'augmentation des températures, en fait, c'est ça, avant que ça n'arrive.
Exactement. Donc l'atténuation, elle agit sur les causes du réchauffement climatique. Alors que l'adaptation au changement climatique, elle, c'est sur les conséquences qui sont en fait déjà inévitables. Enfin, oui, d'une part, parce qu'elles dépendent en partie de nos émissions passées, mais aussi parce que les émissions actuelles sont encore trop élevées et elles ne respectent pas les accords de Paris. Donc l'adaptation au changement climatique, c'est trouver des solutions d'adaptation aux problématiques qui sont déjà observées,
ouais,
mais
ça.
Aussi celles qui vont arriver.
C'est ça. Qui vont arriver trop vite pour qu'on arrive à les empêcher, en fait.
Ah, c'est ça. Il faut jouer sur les deux tableaux.
Bien
en fait.
Sûr.
Il faut traiter les causes et les connaissances. Mais dans le cadre de ce projet-là, nous, on va plutôt essayer de parler des conséquences.
Et alors, quand on parle d'adaptation au changement climatique, vous, vous vous référez à quel gradient de température c'est 4 degrés de plus, 2 degrés de plus, ou vous ne posez pas vraiment la question?
Alors, on ne se pose pas vraiment cette question-là. On sait qu'il y aura une augmentation des températures. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir avant tout un projet d'acculturation au changement climatique, pour que la population, les communautés soient mieux informées et résilientes face à cela. Donc le projet, il va être sur 2 ans, donc il va être dans la continuité de nos précédents projets. Et l'objectif, en fait, enfin, il y a 3 objectifs. Il y a d'abord mobiliser, sensibiliser, acculturer donc ces populations, le grand public et la jeunesse, aux enjeux climatiques. D'abord, parce que d'abord, faut d'abord parler, c'est quoi les enjeux climatiques, et aux impacts du changement climatique, via des actions de sensibilisation, mais aussi de formation dans différents milieux. Après, une fois qu'on est un peu acculturé à ces enjeux-là, il va falloir promouvoir auprès de ce grand public et de cette jeunesse la connaissance qui a été acquise dans le domaine et quelles sont les solutions d'adaptation qu'il y a à ça. Et enfin, le troisième objectif qui est lié, en fait, qui est une suite, c'est qu'en faisant cela, on espère en fait, favoriser le pouvoir d'agir par l'appropriation des enjeux climatiques. Donc là, voilà, c'est un peu le cheminement qu'on a. Et pour le mener à bien, pour que ces objectifs deviennent opérationnels, en fait, on a décidé de mettre en place 3 pôles qui sont interconnectés. Donc un premier pôle qui est la formalisation d'une offre de formation et son animation sur l'adaptation au changement climatique.
Donc une formation pour tout le monde, formation professionnelle. Quoi.
Alors voilà, c'est une formation qui va être d'abord à destination des professionnels de l'éducation, mais aussi potentiellement des étudiants et des étudiantes, des collectifs d'habitants, d'habitantes, des structures partenaires, etc. L'idée, c'est après qu'on puisse délivrer à la suite de ces temps de formation une mallette pédagogique qui puisse être réutilisée par les personnes et auxquelles on pourra accompagner sur une ou deux séances pour qu'ils puissent s'en approprier. Le deuxième, c'est renforcer nos actions de sensibilisation qu'on mène déjà.
Oui, que vous faites déjà. Oui, on voit
mais qu'on va, voilà, qu'on veut un peu pousser un peu plus loin pour la jeunesse, donc en milieu scolaire, périscolaire, extrascolaire, mais aussi auprès du grand public. Et dans l'objectif de mailler au maximum le territoire, donc le territoire qui nous concerne du projet, c'est-à-dire le Finistère et le Morbihan. Donc, sur tous et toutes, mais avec un focus quand même sur les publics, on va dire, éloignés de l'offre de culture scientifique. Donc pour ça, on va mettre en place des labos mobiles où on va pouvoir se déplacer dans les zones rurales, périurbaines. On n'oubliera pas les villes non plus, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un ensemble, en fait, de publics touchés, parce qu'en fait, comme je l'ai dit un peu en préambule, c'est qu'on va aussi l'adapter, ces actions-là. Parce qu'en fait, on ne parlera peut-être pas de la même chose si on est dans le centre-Bretagne que si on est sur la côte, etc.
Ah oui,
parce que les thématiques vont diverger, etc. Donc on va essayer d'adapter notre contenu pour que ce soit voilà, plus parlant.
De toute façon, les petits débrouillards, on sait très bien, sont flexibles, mobiles. Bah, le Science Tour, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaît.
Voilà, on l'essaie, donc ça pourrait prendre un peu cette forme-là. Et enfin, le dernier point qu'on va faire, nous, c'est qu'on se dit qu'on va essayer de tenter de créer une culture commune sur la question de la médiation à cette adaptation au changement climatique,
Avec les autres associations.
Alors, là, ça va être un truc qu'on veut faire sur une échelle un peu plus locale, qu'on trouve peut-être plus pertinente, mais on va faire un ensemble d'autres actions que juste la sensibilisation à la formation, donc à une échelle qu'on a définie du quartier. Donc ça, on va travailler avec nos partenaires, parce qu'on va se focaliser sur ce projet-là, sur des quartiers politiques de la ville, donc de Quimper, Brest, Lorient et Vannes. L'idée, c'est d'associer nos partenaires habituels, mais aussi les collectivités, les collectifs d'habitants, les structures sociales, les élus, les chercheurs, pour faire un projet un peu parti d'intermédiation sur cette question-là de l'adaptation au changement climatique. Et donc là, ça pourra prendre différentes formes, qu'on va voir ce que ça va donner, parce que nous, l'idée, c'est de co-construire, donc c'est pas, on peut pas déjà prédéterminer la forme que ça aura, mais qu'on crée, on essaie de mettre en place une communauté, justement, qui soit résiliente à cette question-là.
Et que tout le monde ait la même vision de l'adaptation au changement climatique.
Que les gens puissent s'exprimer, proposer des choses, qu'on puisse faire culture commune. Et en fait, la bonne exécution de ces trois volets, on va la mettre en place avec notre équipe de permanents et de permanentes, mais aussi d'autres volontaires en service civique qui seront aussi accueillis, formés sur cette question-là. Et après, c'est que ce que je n'ai pas dit, c'est un projet qui est sur 2 ans, qu'on espère financer par l'Europe.
Voilà, c'est encore en cours de construction.
En fait, il est déposé, c'est un projet qui a démarré. Alors, on a commencé la formalisation de notre offre de formation, mais on est en attente de réponses de financement, notamment européen. Et après, on a un ensemble de partenaires, notamment vous.
Avec la radio, exactement.
Ouais, avec l'idée de aussi de proposer pour justement diffuser au maximum de personnes, de toucher sous d'autres formats, d'avoir justement ces émissions autour de cette question-là. Mais aussi, peut-être aussi, on va voir si on va pouvoir le mettre en place, de séries de reportages dans les quartiers pour donner à entendre les initiatives locales sur cette question-là.
Comment on s'adapte concrètement au changement climatique déjà.
Oui, exactement.
Ouais. Parce qu'on s'adapte déjà. Enfin, vous constatez sur le terrain, les petits débrouillards, qu'il y a déjà des initiatives d'adaptation au changement climatique.
Tout à fait. En fait, des fois, les gens le font sans le savoir. Qu'en fait, c'est le terme. Ils ne le mettent pas sous ce terme-là ou ils ne le savent pas. Ils le font des fois par envie ou parce qu'ils n'ont pas le choix, notamment.
Ça peut être quoi, par exemple?
Si on travaille sur l'adaptation, c'est-à-dire, par exemple, si on prend la question des îlots de chaleur qui sont donc en ville, on peut se dire que des habitants, par exemple, vont se demander comment on pourrait faire des zones où on va créer justement des îlots de fraîcheur dans les périodes de canicule pour que ça soit plus vivable. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là.
Ça passe par du végétal essentiellement, j'imagine.
C'est ça. Ça va être aussi, ça peut être enlever l'artificialisation des sols. Ça peut être de mettre des arbres. Ça peut être de mettre des zones d'ombre. Quand il y a des quartiers en rénovation, etc. C'est où on place les choses par rapport à quoi, etc. Donc ça, par contre, c'est pour ça que ça nécessite un ensemble d'acteurs et d'actrices locaux, parce qu'on ne décide pas ça tout seul.
Ça peut pas être que les habitants.
Donc ça concerne les élus, ça peut concerner les architectes du projet, des chercheurs, des chercheuses qui en disent, comment mettre ça en avant. Donc en fait, ça nécessite tout le monde autour de la table.
Mm-hmm. C'est pas la première fois que les petits débrouillards d'ailleurs font de la radio. Vous avez déjà fait les podcasts, mais c'était plus sur le changement climatique lui-même, je crois, ou ses conséquences. Peut-être.
Alors, la série de podcasts qu'on a fait, c'était du côté de Vannes, c'était dans le cadre d'un projet similaire. Et c'était une volonté aussi des volontaires qui étaient présents. Donc, c'est eux qui ont un peu animé ce podcast avec une radio Calonne et en partenariat avec l'Université Bretagne Sud, où on posait une question en lien avec l'adaptation au changement climatique et on faisait intervenir aussi un chercheur ou une chercheuse dont ces projets de recherche étaient liés à cette question-là. Donc il y avait un volet, plus institutionnel de recherche, et puis des questions posées par les volontaires sur cette question-là, et de le mettre en lien avec des contenus ou des outils que nous, on met en place au petit débrouillard pour poser par rapport à la question qui était posée dans le cadre de chacun des podcasts.
Et justement, les outils qui concernent l'adaptation, cette fois au changement climatique, vous en avez déjà des outils comme ça, vous, les petits débrouillards Bretagne ou Grand Ouest ou France d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez par exemple?
Alors oui, alors ça c'est comme je disais tout à l'heure, on a accumulé du contenu pédagogique, des outils au fil des années. Et effectivement, on se les partage, on a un réseau, donc on les garde pas que pour nous. Donc après, c'est disponible pour d'autres régions Petit Débrouillard. Il y a même, on a un Wiki Débrouillard où il y a des outils qui sont ouverts à toutes et tous, donc d'autres structures peuvent s'en saisir s'ils le souhaitent.
On les mettra en lien sur la page de l'émission.
Et avec donc un ensemble de choses. Et ces outils-là donc, ont été constitués au fil des années. Et donc, comme je disais, sur le dernier projet qui a duré 2 ans avec des volontaires, eux, en plus, on a ajouté des nouveaux outils, on a amendé, on a un peu mis à jour, parce qu'en fait, ça, les connaissances changent, donc des choses qu'on avait du contenu qui a été mis en place il y a 5-6 ans peut être amené à être mis à jour. Et donc, dans ces ateliers, ça peut prendre diverses formes. Ça peut être un jeu de rôle où on va imaginer la ville en bord de mer du futur. Et donc, il va traiter des questions justement face à ce qu'on a dit tout à l'heure, lié au contexte en bord de mer, érosion, submersion, et comment on peut faire en sorte que ça soit plus visible. Ça peut être aussi de la fabrication, on peut être sur de la fabrication, par exemple, d'une maquette de bassin versant, où on va poser la question... des crues, des inondations dans ce contexte-là. Ça peut être, il y a différents types de jeux. Donc, j'ai parlé de jeux de rôle, mais ça peut être une fois, on a des jeux hôtes. Ça peut être, je pense à des volontaires qui ont créé ce qui était un peu appelé un monopoly coopératif, qui met en place, en fait, des villes qui existent vraiment.
Mm-hmm. Des villes bretonnes ou pas spécialement?
Pas spécialement, c'est au niveau national, mais et qui proposent déjà des actions d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Et l'objectif, là, justement, c'est de coopérer pour réussir à les mettre en place. Après, on va être...
On fait semblant de faire déborder la rivière pour voir où ça coule, non?
Non, en fait, c'est de dire quand des événements arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, et sur quel levier on peut agir? Les thématiques qui sont que nous, on va essayer de reformaliser avec tout le contenu qu'on a, on va essayer de les mettre en lien, ce qui me paraissait un peu évident, avec justement ce qu'a défini le Haut Conseil Breton pour le climat, donc 5 grandes thématiques qui concernent la région Bretagne, c'est-à-dire la question de l'eau, la question de la biodiversité, la question de la santé, la question de l'aménagement du territoire et la question de l'économie. Donc ça, c'est des questions qui regroupent un ensemble, en fait, de sous-thématiques, en fait.
Oui,
l'eau,
ça,
c'est la qualité, la quantité, la question de la ressource en eau, de l'inondation. Enfin, voilà, ça, à chaque fois, ça regroupe des sous-thématiques. Donc, avec ces 5 grandes thématiques, on touche beaucoup de choses. Et
oui,
ces thématiques sont interconnectées, évidemment.
Oui. Par exemple, l'économie, c'est par exemple l'agriculture. Enfin, nous, c'est vrai que c'est un sujet qu'on traite beaucoup sur Transistor. Donc, l'agriculture qui va devoir s'adapter. Et puis, en Bretagne, c'est pas une mince affaire.
C'est ça, exactement. Là, donc, quand on parle d'agriculture, on va parler... Donc, il y a le volet économie, mais il va y avoir le volet biodiversité.
Ah oui,
il va y avoir le volet eau, il va y avoir le volet santé. Donc, en fait, c'est une approche systémique qu'on essaye d'avoir et qui n'est pas forcément évidente à appréhender.
Et dans l'ensemble, les outils que vous utilisez déjà sur cette adaptation au changement climatique, comment est-ce qu'ils sont reçus par les publics? Enfin, est-ce que ça génère pas aussi de l'angoisse? Enfin, c'est toujours ce qu'on dit à propos de ces questions. Est-ce que c'est pas anxiogène?
Ça peut générer de l'éco-anxiété, ça c'est clair. L'idée, après, c'est pour ça que quand on parle des enjeux, on parle aussi des solutions. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont forts et qui peuvent justement générer de l'éco-anxiété. Mais on essaie de montrer qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place. C'est pour ça que dans le volet, dans les objectifs, nous, on a le pouvoir d'agir. Donc, si on comprend mieux les enjeux, si on voit qu'il y a des choses qui sont possibles de faire, c'est comment on peut actionner les leviers pour essayer d'agir d'une manière ou d'une autre. Sachant qu'après, il y a d'autres choses aussi. On parle souvent de l'éco-anxiété, mais aussi on pourrait parler des personnes qui, malheureusement, ont subi un traumatisme physique ou mentales liées à cette adaptation au changement climatique, ceux qui ont été victimes des inondations.
En Espagne, par exemple.
D'incendies qui ont tout perdu. Et ça, c'est pas évident. Donc, ça, c'est vrai que c'est une question qui mériterait d'être traitée plus en profondeur sur comment c'est perçu et comment. Parce qu'en fait, insensibiliser comme ça et en se disant, c'est bon, on a dit, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et comment c'est perçu, au-delà du fait d'y croire ou de ne pas y croire, c'est après, est-ce que ça ne peut pas tétaniser ou pas? C'est pour ça qu'un accompagnement long est intéressant.
Oui.
C'est pour ça qu'on avait fait les ambassadeurs de l'adaptation au changement climatique, des jeunes volontaires, et bien, c'est vrai que c'est des questions qui générait chez certains ou certaines d'entre eux justement cette éco-anxiété. Donc, mais par contre, c'est du travail sur du long terme. Donc là, c'est un accompagnement de 8 mois. Donc voilà, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on essaie de faire du mieux qu'on peut, en tout cas.
Bon, là, ça sera 2 ans et on fera donc des émissions avec les petits débrouillards et on essaiera de ne pas être éco-angoissant. Merci beaucoup, Quentin Gauthier. On se retrouve dans un mois à peu près sur cette antenne avec un sujet donc plus précis cette fois d'adaptation au changement climatique.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
À bientôt.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.